Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Alhamdulillah hamdan kathiran طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis fraternellement dans cette assise ayant pour but d'entretenir notre foi et nourrir nos cœurs dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce cœur-là est un récipient servant à contenir. Et chacun va choisir ce qu'il va déverser dans ce récipient. Parmi les gens, tu en trouveras certains qui décideront d'y déverser des liquides nocifs en s'attachant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en se soumettant et en faisant d'un autre qu'Allah sa priorité. Ce cœur-là sera alors empoisonné. Qu'Allah nous en préserve. Il vivra d'une façon malsaine et il terminera, si Allah ne le rattrape pas, d'une façon encore plus malsaine. Et parmi les gens, d'autres qui décident de remplir leur cœur d'un lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là savent pourquoi ils ont été créés. Ils savent qu'Allah, azza wa jal, le Tout-Puissant, le détenteur de la force, le protecteur, le pourvoyeur, est le seul qui leur a donné tous ses bienfaits et qui leur a accordé cette subsistance en abondance. Ils ont donc décidé de plein gré de se soumettre à ce donateur, à ce bienfaiteur, à Allah Azza wa Jal, en nourrissant ce lien avec lui. Et ce lien entre le créateur et sa créature, c'est lui que l'on appelle al-ubudiyya en arabe, la servitude. La servitude, c'est un état. L'état que tu manifestes lorsque tu es dévoué pour ton Seigneur, lorsque tu l'adores, subhanahu wa ta'ala, lorsque tu lui reconnais son plein droit à l'adoration, lorsque tu connais ses noms parfaits, ses attributs sublimes, lorsque tu connais sa grandeur, sa beauté, sa perfection, la servitude. Nous sommes tous destinés à être des serviteurs. Cependant, Allah Azza wa Jal nous a laissé le choix de qui on veut être serviteur. Soit on sera serviteur d'Allah, esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, de bon gré, soit on décidera de s'accrocher à autre que lui, d'aimer autre que lui, de se soumettre à autre que lui, et alors on deviendra l'esclave de cet autre que nous avons choisi. Allah nous a laissé le choix pour nous tester, mais ce qu'il veut pour nous, et ce qu'il y a de bon, c'est que l'on soit des serviteurs d'Allah. Et c'est ce pourquoi Allah nous a créés. Il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le but de ton existence n'est pas de manger ou de boire ou de jouir. Ce sont certes des bienfaits qui doivent servir à t'aider à concrétiser le but pour lequel tu as été créé. Et le but pour lequel tu as été créé, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et si tu médites dans ce verset-là, puis tu lis le verset précédent, tu vas te rendre compte d'une grande sagesse. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset d'avant, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et fais le rappel, car certes le rappel est profitable pour les croyants. Tout de suite après, il nous dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comme si Allah fait allusion, subhanahu wa ta'ala, au fait que le plus grand appel à faire, c'est celui de son adoration, car c'est la base de tout. Tout le reste vient après et doit servir à t'aider à cet objectif et pas le contraire. À partir de là, Allah Azza wa Jal a diversifié dans le Coran les versets traitant de l'adoration et démontrant la situation de ce serviteur de plein gré. Celui qu'on appelle Al-Abd, le serviteur. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se divisent en deux catégories. Il y a le serviteur de bon gré, celui qui le fait volontairement, et il y a le serviteur malgré lui. Le serviteur de bon gré, c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal, se soumet à lui avec son cœur et volontairement. C'est le croyant. Le serviteur malgré lui, c'est le kafir qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, qui s'est détourné de lui, mais qui malgré tout ne peut rien être d'autre qu'un esclave d'Allah. Il a besoin de manger, de boire, de se soigner, de se couvrir, d'habiter. Et si Allah ne lui donne pas tout ça, il ne peut pas le faire. Donc il est un serviteur d'Allah malgré lui, qu'il le veuille ou non. Quand on parle de la servitude pour Allah Azza wa Jal particulièrement, on parle de la première catégorie. On parle de celui qui est serviteur d'Allah de bon gré, celui qui volontairement fait le choix d'être l'esclave sincère d'Allah Azza wa Jal. Cet état-là, c'est celui des prophètes et de ceux qui ont suivi les prophètes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a vanté dans son livre ses serviteurs. Et il a été jusqu'à dire que Iblis ne peut rien contre eux. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. En s'adressant à Iblis, Allah Azza wa Jal a dit: mes serviteurs, tu n'auras aucune emprise sur eux. De quel serviteur il s'agit dans ce verset? De ceux qui ont développé dans leur cœur cette situation de servitude pour Allah. Ils sont les esclaves d'Allah volontairement. Ils aiment le faire. Un homme est allé voir l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et lui a posé la question suivante. Alaykoum salam. Il lui a dit, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est le verset 21 de sourate Al-Baqara. C'est le premier ordre que tu trouves dans le Coran. C'est quoi le premier ordre? C'est l'ordre d'adorer Allah, ce qui te montre que c'est la priorité. La première injonction, le premier ordre qu'Allah donne dans le Coran, c'est de l'adorer en s'adressant à tout le monde. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Cet homme a demandé à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'est-ce que l'ibada? Qu'est-ce que l'adoration? Quelles en sont les conditions? Qu'est-ce qui la rend valide ou invalide? Est-ce que toute la religion entre dans le mot ibada? Et il lui a développé tout un tas de questions, puis il lui a dit, je te prie de me développer la réponse en détail. Et c'est là que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, pour répondre à cette question, va écrire un livre qui, par Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, est un trésor immense, inestimable, que tout l'or du monde ne suffirait pas pour l'acheter. Ce livre est intitulé « Risalatul Ubudiyya », la servitude. Et c'est sur ce livre-là que je vais me baser pour les paroles qui vont suivre, Inch'Allah ta'ala, en vous lisant un chapitre particulièrement qui traite d'un point qui nous concerne tous et dont on a besoin de façon intense. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a donc traité le sujet de l'adoration. Il a démontré qu'est-ce que veut dire l'adoration, qui est l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a montré que c'est le degré le plus haut que l'on puisse occuper, celui d'être le abd, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a développé tout un tas de questions très importantes et il a même expliqué que personne ne se voit dégager de ce statut de la servitude à Allah, d'être l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah azza wa jal. Et que la différence entre les gens revient à leur différence dans leur application de cette servitude. Certains le sont plus que d'autres et donc ils ont des hauts degrés chez Allah azza wa jal et privilégiés par rapport à d'autres personnes. Après avoir développé tout ça, dans un chapitre de cet écrit, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit « Faslun, idha tabayyana dhalik, si tout ceci est clair, fama'loumun, anna nasa yatafadaloun, non laisse-le, laisse-le, fama'loumun, anna nasa yatafadaloun fi hadha al-babi tafadulan azima. » Il est connu que les gens sont différents dans ce sujet-là, le sujet de la servitude, et qu'il y a entre eux une disparité énorme. On n'a pas le même degré. On n'est pas tous au même stade. On n'est pas tous les mêmes serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que la disparité entre les gens est énorme. Certains sont des serviteurs d'Allah à petite dose. D'autres le sont énormément. Et plus tu développes cette servitude envers Allah Azza wa Jal, plus tu es proche de lui. Ibn Taymiyyah rahimahullah, ce grand imam, ce grand savant a dit « Wa huwa tafaduluhum fi haqiqatil iman » Cette disparité revient à la disparité, la différence entre les gens dans la réalité même de la foi. Plus la foi que tu as, tu la connais, tu la nourris, tu l'entretiens, tu la développes, plus tu deviens serviteur d'Allah. Plus tu occupes ce rang privilégié, honorifique. Tu es proche d'Allah. Il te voit, il t'aime, il te considère. Et quand tu lui demandes, il te répond. Quand tu as besoin de lui, tu le trouves. Subhanahu wa ta'ala. Et les gens ne sont pas pareils dans cette foi-là. Ils ont des degrés qui sont différents. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'il a fait un rêve. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Bayna ana na'im, alors que je dormais, ra'aytu nas yu'raduna alayya. » J'ai vu les gens que l'on m'a exposés. Donc il a vu les gens qui lui ont été montrés et exposés. Il a vu une foule de gens. Et il s'est mis à les regarder dans ce rêve. Wa alayhim qumusun. Et ces gens-là portaient des qamis, le vêtement que l'on porte pour couvrir le corps. Minha ma yablughu thudi. Et j'ai vu que certains de ces qamis recouvraient les gens qui les portaient jusqu'au niveau du torse. Thudi, j'ai que la traduction familière, c'est le téton. J'aurais bien aimé trouver un autre mot, mais bon. Jusqu'à là. C'est-à-dire qu'ils n'ont que ça qui est couvert, le haut de leur corps et tout le reste, il les a vus, ils sont dévêtis. Ils n'ont pas de vêtements. وَمِنْهَا مَدُونَ ذَلِكَ Et j'ai vu d'autres gens avec autre que cela. Donc, certains étaient beaucoup plus couverts que d'autres, certains étaient complètement couverts. وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيسٌ يَجُرُّهُ Et on m'a alors montré Umar ibn al-Khattab portant un qamis tellement long qu'il le tirait. رَضِيَ ta'ala عَنَ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par les compagnons qui lui ont dit « قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Comment l'as-tu interprété, ô messager d'Allah ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « قَالَ الدِّينَ » Il a répondu « C'est la religion. » Le qamis en rêve est synonyme de religiosité. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avait un qamis long, un point où il le tirait. C'est l'indice de sa forte religiosité. Qu'est-ce que tu comprends de ce rêve qui a été fait par le prophète, alayhi salam? Plusieurs choses. Celle qui va nous concerner dans ce sujet, c'est la différence entre les gens dans leur dîn. Et la différence entre les gens dans leur dîn revient à leur différence dans leur servitude envers Allah Azza wa Jal, qui elle-même revient à leur différence dans la foi qu'ils ont en Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne sont donc pas pareils. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a classifié et nous a démontré que ses serviteurs sont de trois catégories. Et on le retrouve dans Sourate Fatir, dans le verset où Allah Azza wa Jalla a dit « ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا » Puis, nous avons fait hériter du livre, la révélation, le Coran, à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. « الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا اَخْتَرْنَاهُمْ » Ceux que nous avons choisis et que nous avons décidé de les favoriser, on les a élus. Min ibadina, parmi nos serviteurs. Donc on parle ici de servitude. Et ce qui va suivre est la classification des degrés de servitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ce qui nous montre que nous ne sommes pas tous au même degré. Allah Azza wa Jal a dit, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Parmi ceux-là, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah, il y a celui qui cause du tort à son âme, qui est injuste envers lui-même. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ Et parmi eux, il y a l'économe. On va tous les expliquer, Inch'Allah. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ Et parmi eux, il y a celui qui devance les autres dans le bien par la permission d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ces trois degrés sont les trois degrés possibles de servitude à Allah Azza wa Jal. Le premier qui a été cité, c'est le degré le plus bas, le moindre. Zalimun li nafsi, celui qui cause du tort à sa personne. Il s'agit ici de celui qui adore Allah sans rien lui associer, mais qui commet des péchés, soit en délaissant des obligations ou en commettant des interdits. Il délaisse le wajib ou commet le haram. Mais il n'adore rien d'autre et personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sort pas de la sphère des serviteurs d'Allah. Mais il est considéré comme ayant causé du tort à sa personne, à cause des péchés qu'il a commis et des obligations qu'il a délaissées. Le deuxième degré cité par Allah Azza wa Jal, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ Et parmi eux, il y a l'économe. L'économe, c'est celui qui adore Allah seul, sans lui associer, et qui se contente de faire les obligations et de délaisser le haram. Et au-delà de ça, il n'ajoute rien. Il ne fait rien qui est recommandé et il ne délaisse pas ce qui est détestable. Lui n'est pas dans le péché. On l'appelle l'économe. Pourquoi ? Parce qu'il s'est contenté de la base qui lui est obligatoire. Il a rempli son devoir, sans se faire du tort à lui-même. Comme le compagnon qui vient voir le prophète alayhi salam et qui l'interroge sur les prescriptions d'Allah, la salat, le jeûne, l'aumône, et lui dit « Si je me contente de ça, est-ce que je gagne ?» Le paradis, le prophète lui dit « Oui, l'homme repart et dit « Je vais me contenter de ça. » Le prophète alayhi salam informe les compagnons que s'il est véridique, il a réussi. Parce qu'il a fait son devoir. Mais il y a un degré plus haut, c'est le troisième. Au sujet duquel Allah Azza wa Jal a dit « وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ » Et il y a parmi eux celui qui devance les autres dans le bien par la permission d'Allah. Lui est celui qui a adoré Allah seul, sans rien lui associer, qui a appliqué les obligations, délaissé les interdits et qu'il a embelli tout cela avec les actions qui ne sont pas obligatoires mais recommandées, et il a délaissé les actions qui ne sont pas interdites mais détestables. Ça, c'est le plus haut degré. Et si on médite ce verset, on peut comprendre plein de choses. Mais on va retenir quelques points. Premièrement, nous n'avons pas le même degré de servitude à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, il y a 3 degrés. Le moindre, le minimum et le plus haut degré. Troisièmement, dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité en premier celui qui n'est pas le premier dans le degré. Et en dernier, celui qui n'est pas le dernier dans le degré. Pourquoi, à votre avis? Les savants nous expliquent que Allah Azza wa Jal veut nous dire que ces gens-là, qui causent du tort à eux-mêmes, en commettant des péchés et délaissant des interdits, mais qui n'adorent personne d'autre qu'Allah et ne commettent pas de shirk, ces gens-là, ils sont quand même les serviteurs d'Allah. Il est possible qu'Allah leur pardonne. Alors il ne faut pas qu'ils désespèrent. C'est pour ça qu'Allah les cite en premier. Et c'est pour ça que certains savants sont d'avis que ce verset est le verset du Coran qui fait susciter le plus dans le cœur du croyant l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et ça t'apprend que tu ne dois jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les meilleurs ont été cités en dernier. Allah les a cités en dernier, Azza wa Jal, en disant « وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ » Et parmi eux, il y a ceux qui devancent les autres dans le bien, bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Pourquoi Allah leur dit bi'idhnillah? Ne soyez pas trompés. Vous avez occupé ce grand degré, vous êtes des grands serviteurs d'Allah, vous n'avez pu l'être que par la permission d'Allah. C'est une grâce d'Allah, une faveur d'Allah sur vous, subhanahu wa ta'ala. Avec le hadith du rêve du prophète, alayhi wassalam, avec ce verset-là, on a compris que ce qu'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, qui nous dit « وَهُمْ يَنْقَسِمُونَ فِيهِ إِلَىٰ عَامٍ وَخَاسٍ » Les serviteurs d'Allah Azza wa Jal se divisent en serviteurs de manière globale et les privilégiés, les particuliers. « وَلِهَذَا كَانَتْ رُبُوبِيَةُ الرَّبِّ لَهُمْ فِيهَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ » Et c'est pour ça que la seigneurie d'Allah, al-Rububiyya, la Rububiyya, la seigneurie d'Allah, c'est un mot que l'on utilise pour désigner toutes les choses que seul Allah est capable de faire. Et la base de ces choses-là, c'est la création, c'est le fait de posséder toutes choses et le fait d'administrer ou de gérer. Tout ce qui en découle vient de ces 3 choses-là. Allah est le seul créateur, le seul possesseur et le seul à administrer, à gérer ce qu'il y a dans sa créature, subhanahu wa ta'ala. Cette seigneurie d'Allah englobe le fait qu'Allah guide, le fait qu'Allah égare, le fait qu'Allah guérisse de la maladie, le fait qu'Allah éprouve son serviteur, le fait qu'Allah t'honore, étale et te déverse de la subsistance. Toutes ces choses-là font partie de la seigneurie d'Allah. Cette seigneurie d'Allah, Allah Azza wa Jal l'applique envers ses serviteurs proportionnellement à la servitude qu'eux-mêmes appliquent vis-à-vis d'Allah. Plus tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah tabaraka wa ta'ala te donnera de sa seigneurie. Donc, il te protégera, il te guidera, il t'accordera la subsistance, il te guérira, il te délivrera de l'épreuve et ainsi de suite. Mais, à cause de l'ignorance de beaucoup parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, il y a une forme de shirk dont on va parler qui est tellement subtile et pourtant destructrice. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit « وَلِهَذَا كَانَ الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ » Et pour cela, il faut savoir que le polythéisme, le shirk, on doit comprendre ce qu'est le shirk. Si on voulait le comprendre comme ça rapidement, qu'est-ce que c'est le shirk? Quelqu'un qui passe, il veut comprendre tout de suite, sans trop développer, sans trop détailler. Tu lui dis le shirk, c'est de prendre un autre qu'Allah et de le mettre à égal à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cet autre-là, ça peut être une créature vivante. Ça peut être un objet inerte. Ça peut être la matière, ça peut être la dunya, ça peut être plein de choses. Dès lors que ton cœur va s'attacher à un autre qu'Allah, peu importe qu'est-ce que cet autre ou qui est cet autre, comme il aurait dû s'attacher à Allah, alors il a commis une forme de shirk. Et cette forme de shirk-là est subtile. Et c'est très difficile à la repérer, sauf si tu apprends le tawhid. Sauf si tu apprends la science. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans un hadith, nous dit, al-shirku fi hadhi al-umma, le polythéisme dans cette communauté, akhfa min dabib an-namlati sawda, est plus imperceptible, plus subtil, plus caché que la marche dabib, c'est la marche de la fourmi noire dans un rocher, sur un rocher noir, dans une nuit ténébreuse. Tayyib. On est réunis entre frères. Imaginez-vous, pendant que je parle, une fourmi toute petite qui passe. Qui va la voir? Qui va la voir d'entre nous? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Personne ne va la voir, n'est-ce pas? Peut-être que c'est le cas, on ne le sait même pas tellement les petites, on ne peut pas la voir. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous enseigne qu'il existe des formes de shirk qui sont l'opposé, le contraire même de cette servitude, justement, qui peuvent s'infiltrer en toi et dans ton cœur jusqu'à détruire le shirk sans que tu ne t'en rendes compte. Comme la fourmi qui passerait devant toi sans que tu ne t'en rendes compte. Et c'est très grave. Mais il y a plus grave que ça. C'est de ne pas apprendre comment t'en protéger. Et de vivre et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Alors que par Allah, bon nombre de gens tombent dedans. Sans qu'ils ne le savent. Ou qu'ils ne le sachent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié leur dîn. On ne dit pas ici d'être un savant de l'islam, mais de connaître les bases de ta religion. Les gens ne sont pas pareils. Et ceux qui ont atteint le degré le plus haut, as-sabiq bil khayrat bi idhnillah, celui qui devance les autres dans le bien par la permission d'Allah, ce sont les gens du tawhid pur et dur. Ce sont les gens qui n'associent rien à Allah Azza wa Jal, qui accomplissent leurs devoirs, qui délaissent les interdits et qui embellissent tout cela avec les bonnes actions. Et pour vous donner une image, vous allez vous imaginer un arbre fruitier. Cet arbre-là, il faut absolument la racine. La racine, c'est la base du tawhid indispensable, sans laquelle tu ne peux pas être musulman. Tu ne fais pas de shirk, akbar. Cet arbre, ensuite, il a besoin d'un tronc et de branches. Sinon, on ne dira pas que c'est un arbre. On dira que c'est un tronc d'arbre. On dira que c'est une branche d'arbre. Mais pour dire que c'est un arbre, il faut le tronc et les branches. Ce tronc et ses branches, cette image-là, garde-la dans ta tête, elle sert à représenter la partie du tawhid, la partie du din, de la servitude qui est obligatoire lorsque tu fais les obligations et délaisses les interdits. Et après, si tu veux, tu embellis cet arbre avec les fruits. Les fruits ne sont pas indispensables pour dire que c'est un arbre. Mais s'il y a des fruits, c'est un arbre qui est meilleur. De même que ta servitude là, si tu l'embellis par les actions recommandées par le prophète alayhi salatu wassalam et avant lui par Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant les choses détestables, alors là, tu as un din qui ressemble à un bel arbre. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, pour comparer la parole la ilaha illallah et le tawhid, qu'elle ressemble à un bel arbre. Alam tara kayfa darab Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah. Ne vois-tu pas qu'Allah a proposé en parabole? Une parabole, c'est une comparaison entre quelque chose que tu peux voir et quelque chose que tu dois comprendre sans le voir. Pour t'aider à le comprendre, Allah Azza wa Jal va te faire une comparaison. Ne vois-tu pas comment Allah a proposé en parabole kalimatan tayyiba, une bonne parole? Cette parole-là, c'est la ilaha illallah, c'est le tawhid. Kashajaratin tayyiba, qui ressemble à un bel arbre. Et cet arbre-là, dans le tafsir, on apprend que c'est le palmier. Même dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur arbre, c'est le palmier. Asluha thabit, ses racines sont fermement ancrées dans le sol. Wa far'uha fi sama, et ses branches s'élancent vers le ciel. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Les bases, je vous ai dit tout à l'heure les racines, et ensuite les branches. Et les branches ne peuvent tenir que sur le tronc. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Cet arbre donne de ses fruits à chaque moment par la permission de son Seigneur. Et ça, c'est les fruits qui servent à l'embellir. Les gens ne sont pas pareils dans ça. comment ne pas apprendre ça? Comment ne pas donner de ton temps? Je suis sûr qu'en entendant ces paroles-là, vous êtes en train de vous réjouir. Tellement la saveur de ce qu'elle procure dans le cœur est indescriptible. Mais il existe une forme de shirk qui peut détruire ça, qui peut détruire cet arbre comme les mauvaises herbes. Il y a des mauvaises herbes invisibles. Il y a du shirk invisible. Sauf pour celui qui a un appareil qui sert pour lui à détecter les mauvaises herbes. Sauf pour celui qui a son tawhid et sa science qui lui permettent de détecter les mauvaises herbes de foi qui vont lui détruire son iman. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, va maintenant s'étaler et dit, au fils sahih, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش إن أعطي رضي وإن منع سخط. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: a péri le serviteur du dirham, a péri le serviteur du dinar, a péri le serviteur, on pourra même le traduire par l'esclave pour que ça soit plus fort, a péri l'esclave de la soie que l'on appelle al-qatifa. Al-qatifa, c'est la soie sur laquelle on s'assoit. Les gens de cette époque-là, aisés, posaient ce tissu-là que l'on appelle al-qatifa, une soie de luxe, et il s'asseyait dessus. Ta'isa Abdul Khamisa a péri l'esclave de la Khamisa. La Khamisa, c'est la soie que l'on porte. Ta'isa Wantakas, il a péri et il est tombé la tête la première. Wa idha shika falan taqash. Et lorsqu'une épine se plantera en lui, il ne s'en sortira jamais. Pourquoi? Il nous dit, in u'tiya radi. Celui-là, là, cet esclave-là, quand on lui donne quelque chose, il se montre satisfait. Wa in muni'a sakhit. Et quand il est privé, il se met en colère. Allons maintenant détailler ce hadith-là. Subhanallah. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous parle ici de celui qui, au lieu de développer la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'être l'esclave de plein gré d'Allah azza wa jal, au lieu d'être le serviteur d'Allah de par son cœur a penché vers un autre qu'Allah. Peu importe qui est cet autre, mais dans ce hadith, on a des exemples. Et ces exemples-là n'ont pas été choisis de façon anodine. Celui qui a choisi de soumettre son cœur, d'attacher son cœur, de faire pencher son cœur, d'aimer fortement comme on devrait aimer Allah. Un autre qu'Allah Azza wa Jal, il en devient l'esclave, il en devient le serviteur. Il aura alors enlevé de son cœur une branche de la servitude qui revient de droit à Allah pour la donner à un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il nous dit « Ta'isa a péri », en apparence, c'est une information qui est donnée. On appelle ça « ad-du'a ou bil-lafz al-khabar ». C'est une invocation qu'il est en train de faire sous la forme d'une information qu'il donne. Quand il dit « l'esclave du dirham et du dinar a péri », quand tu entends ça, c'est une information. Telle personne a péri. En réalité, il est en train de dire « oh Allah, je t'invoque ». Et je te demande de faire en sorte que celui qui décide d'être l'esclave de la dunya, du dirham et du dinar, et à l'époque, le dirham et le dinar, ce sont les pièces d'or et les pièces d'argent. En gros, l'or et l'argent. Donc, l'esclave de l'argent. Je te demande, oh Allah, de le faire périr. Je te demande de le faire périr. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a cité dans ce récit quatre choses. Le dinar, le dirham, donc l'or, l'argent. Al-Qatifa, la soie sur laquelle on s'assoit. Les gens du luxe de l'époque, ils posent une certaine soie par terre, puis s'assoient dessus. Et la soie Al-Khamisa, la soie que l'on porte. Et si tu réfléchis bien sur ces exemples-là, tu vois qu'ils sont frappants et parlants. L'or et l'argent, donc à notre époque, ça revient à quoi ? À l'argent, au bien mondain. Et la soie sur laquelle on s'assoit, ça revient à quoi ? Ce sur quoi on s'assoit. Quand tu as de l'argent, tu fais quoi ? Tu fais quoi quand tu as de l'argent ? Tu t'achètes une belle monture, par exemple. Écoutez bien, on n'est pas en train de blâmer ça. On est en train de blâmer celui qui est l'esclave de ça. C'est important de le comprendre. Il y a eu un prophète qui était roi, riche. Il y a eu des sahabas comme Uthman ibn Affan qui étaient riches. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler d'être l'esclave de ça. Sinon, si Allah te donne de ces dons-là et que tu les utilises à bon escient, alors le prophète, alayhi wa sallam, a dit « Ni'am al-mal al-salih lirajul al-salih » Quel bon argent pieux pour l'homme pieux. Le prophète, alayhi wa sallam, nous dit « A péri l'esclave du dinar et du dirham, de la soie sur laquelle on s'assoit et de la soie que l'on porte. » Ici, c'est ce que l'on appelle « At-tambih bil adna ala al-a'la ». Il attire notre attention en nous donnant un exemple sur ce qui est moindre pour nous dire qu'en est-il de ce qui est plus que ça alors. Si ces gens-là sont les esclaves, les adorateurs, les serviteurs de la matière, de l'argent, du vêtement, de la monture, de ce sur quoi on s'assoit, de ce que l'on porte, au point d'avoir été distrait du droit du Seigneur des mondes, du droit d'Allah Azza wa Jal, à un point où, lorsque s'oppose l'ordre d'Allah et la chose que ce serviteur aime en dehors d'Allah, combien même il s'agirait d'une chose qui à la base est licite. Lorsque ces deux choses-là s'opposent, si le serviteur prend à la place de l'ordre d'Allah la chose qu'il a aimée, sachez qu'il est tombé dans une forme de shirk, dans une forme de shirk asrar, imperceptible. Ce n'est pas une forme de shirk qui fait sortir de l'islam, mais c'est une forme de shirk qui lui pourrit sa foi. Comme l'image de cet arbre-là avec les racines indispensables, puis le tronc et les branches, et par la suite les fruits. Celui qui aime autre qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit un être vivant ou un objet inerte, ou de l'argent ou la dounia, peu importe, au point d'être détourné de son objectif pour lequel il a été créé, alors ce détournement-là est l'indice que dans son cœur il y a du shirk. Et ça doit nous faire peur. Et par Allah, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, Allahu Akbar, on doit vraiment être très vigilant. Parce que ça va vite. Et si on n'est pas armé, on ne s'en rend pas compte. Et si on ne s'en rend pas compte, et qu'on se laisse couler dans ça, et qu'en plus de cela, Allah continue à déverser sur nous de ses bienfaits, alors là, c'est ce que l'on appelle al-istidraj. Al-istidraj, qu'est-ce que c'est ? C'est que Allah te voit dans une situation déplaisante pour lui, et il décide de te laisser comme ça et de te rajouter. Il te rajoute, puis il attend un moment où tu ne t'y attends pas, il te prend un châtiment qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit, ta'isa wa antakas, il a péri, c'est-à-dire qu'Allah le fasse périr. Il est tombé sur la tête la première, c'est-à-dire que tout ce qu'il fasse soit désordonné, que ça ne marche pas, ou alors que ça termine avec une mauvaise fin. وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تَقَشْ Et si une épine le plante, c'est-à-dire s'il lui arrive un problème dans sa vie, parce qu'il a décidé d'être l'esclave d'autre qu'Allah, alors je demande à Allah que cette épine ne sorte jamais, qu'il ne s'en sorte jamais. Pourquoi ? Le prophète, alayhi salam, nous dit إِنْ أُعْطِيَ رَضِي وَإِنْ مُنِعَ سَخِتْ Parce que quand on lui donne, il est satisfait. Et quand on le prive, il se montre colérique. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, il dit c'est bon, Allah m'a donné. Mais par contre, si Allah azza wa jal décide, pour une raison dont il est connaisseur, parce qu'il est infiniment sage, de le priver, qu'est-ce qu'il dit ? Il se met en colère. Pourquoi je n'ai pas ? Donc, il base sa satisfaction et sa colère non pas sur la décision d'Allah Azza wa Jal, mais sur ce que lui, il veut. Je veux telle chose, je ne l'ai pas eu, je me mets en colère. Mais si Allah ne te l'a pas décrété, tu peux te mettre en colère jusqu'au septième ciel. Tu retomberas par terre et tu n'auras rien. Et le prophète, alayhi wasalam, nous montre que c'est une situation qui est grave. Ton contentement ou ton mécontentement ne doit pas dépendre de tes passions, ne doit pas dépendre de la dunya, ne doit pas dépendre des biens de la dunya. Ton contentement ou mécontentement doit dépendre de qui tu es chez Allah. Si tu estimes que chez Allah tu occupes une grande place, sois content. Si tu estimes qu'auprès d'Allah tu n'occupes pas une bonne place, sois mécontent. Parce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit "Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibb." Allah donne de cette dunya à qui il aime et à qui il n'aime pas. "Wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhibb." Et il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Et wallah ya ikhwa, être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la richesse même. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam a dit "Laysa al-ghina 'an kathrati al-'arad." La richesse ne consiste pas en l'abondance des biens. Innamal ghina ghina an-nafs. La richesse n'est que la richesse de l'âme. Tout le reste, si tu l'as, c'est un grand bien d'Allah. Mais utilise-le à bon escient comme un esclave serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète Sulayman, alayhi salam, dans Surat Sad, Allah Azzajal nous informe que il avait des chevaux magnifiques. Il les contemplait. Il était épaté par la beauté d'un cheval. Et qu'est-ce qu'il passé? Il contemplait ce cheval-là jusqu'à ce que la prière du Asr ait passé. Et on sait que les prophètes ont prié. Chacun avait une façon de prier. Mais on sait que lui, il avait la salat al-Asr. Et il ne l'a pas faite parce qu'à ce moment-là, il contemplait le cheval. Et quand il a vu que le soleil s'est couché, et qu'il était en train de regarder le cheval, il a dit, Rodduha alay. Ramenez-moi le cheval. Fatafiqa masham bisouqi wal a'naq. Allah a dit, Azza wa Jal. Et il s'est mis à lui découper les jambes et le cou. C'est ça qui m'a détourné de la salat. Ramenez-le-moi tout de suite. Il a pris de quoi le sacrifier. Il l'a sacrifié sur place. Regardez. Il est dans la servitude pour Allah Azza wa Jal. Comment une dunya te détourne de ce qui est la base de ta vie même. Tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant qu'Allah donne, reprend, rajoute, enlève encore plus. Il peut te laisser au sol et t'élever au ciel. Il peut. L'essentiel c'est qui es-tu avec Allah vis-à-vis de lui subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, mais avant même de lire la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, je voudrais que vous reteniez cette règle. La règle est la suivante. Toute personne qui aime quelque chose au point que cela le détourne de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou l'amène à être avare dans ce qu'Allah a ordonné, est tombé dans une forme de polythéisme et de servitude envers autre qu'Allah. Et une part de la servitude de son cœur est alors partie vers autre qu'Allah. Ça, c'est une qa'ida. C'est une règle dans le shirk et le tawhid. Je la répète. Toute personne qui aime quelque chose, je vous laisse le temps de l'écrire, ceux qui veulent l'écrire. Toute personne qui aime quelque chose au point que cela le détourne, de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, toute personne qui aime quelque chose, au point que cela le détourne de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou l'amène à être avare, dans les ordres d'Allah, ou l'amène à être avare dans les ordres d'Allah, est tombé dans une forme de shirk. Qu'Allah nous en préserve. Est tombé dans une forme de shirk. Et de servitude envers autre qu'Allah. Donc, cette chose-là qu'elle a aimée. Ça peut être une personne. Ça peut être un bien mondain. C'est pas que ça, ça peut être plein de choses. Est tombé dans une forme de pôle de shirk et de servitude envers autre qu'Allah. Qu'est-ce qu'il en découle? Et une part de la servitude de son cœur est alors partie vers autre qu'Allah. Qu'Allah nous en préserve, ya Rabb. Et une part de la servitude de son cœur est alors partie vers un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et là, on voit que l'imam Ibn al-Qayyim, cher frère, a dit vrai dans des vers de poésie. Il a un poème qui est très connu qui se nomme An-Nuniyya. C'est un poème qui se termine toujours par la lettre Nun. Dans ce poème-là, il a des vers dans lesquels il dit de ces gens-là, qui sont les serviteurs de la dunya, esclaves d'autres qu'Allah, de leurs passions, des gens qui leur sont chers et bien aimés, de leur argent, de leur monture, de leurs loisirs, de leur, peu importe. Ibn al-Qayyim, rahimallah, a décrit ces gens-là. Il dit d'eux, harabu min ar-riq alladhi khuliqu lahu, fabulu bi riq an-nafs wa ash-shaytani. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. Ces gens-là, ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as été créé pour être l'esclave d'Allah Azza wa Jalla. Le serviteur d'Allah de bon gré, de plein gré avec ton cœur, avec ta relation avec Allah, tu dois la nourrir. C'est ça qui te fait vivre, c'est pour ça que tu vis. Mais dès lors que la personne choisit de faire pencher son cœur vers ses passions, vers des gens, vers la dunya, vers peu importe, d'un penchant qui n'est pas correct, le penchant du cœur. Alors à ce moment-là, ces gens-là ont fui la servitude pour laquelle Allah les a créés. Ils ont fui cette mission-là pour laquelle Allah les a créés. Ils se sont trouvés éprouvés par la servitude de leur âme et du diable. Si tu n'es pas le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras inévitablement le serviteur de quelqu'un d'autre, de quelque chose. Pourquoi? Parce que l'humain a besoin de se soumettre à quelque chose. Il a besoin de s'attacher à quelque chose. Il a besoin de s'en remettre à quelque chose. Chers frères, méditez sur la vie de tous les jours. Quand tu entends celui qui te dit « Mes enfants sont ma raison de vivre », il a besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'il dit ça. Pour lui, c'est ça qu'il a trouvé. Quand tu entends celui qui dit « Ma femme est ma raison de vivre », il a besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'il dit ça. Quand il dit « Mon travail est ma raison de vivre », au point où il se suicide quand il perd son travail, ça, c'est un serviteur de son travail. Si on lui donne, il est content, comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, et si on le prive, il est en colère, au point d'aller se suicider. Celui-là, là, à chaque... Sans le moindre doute, il a associé Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, on pose la question à ces gens-là, qui disent, c'est ma raison de vivre. Où était donc ta raison de vivre avant que ces choses n'arrivent? Si tu vis pour tes enfants avant que tes enfants arrivent, tu n'avais pas de raison de vivre. Si tu vis pour ta femme ou ton époux avant qu'ils ne naissent, tu n'avais donc pas de raison de vivre. Si tu vis pour tes biens avant que tu ne les acquières, tu n'avais pas de raison de vivre. Résultat, ta raison de vivre est fausse, ce n'est pas la bonne. C'est pour ça que tu vis malheureux. Et c'est pour ça qu'ils vivent malheureux. Ibn Qayyim, rahimallah ta'ala, a dit « Fabulu bi riqqin nafsi wa shaytani ». Ils se sont trouvés à être les esclaves, les serviteurs de leur nafs et de leur shaytan. C'est pour ça qu'après, ils commettent un péché, un deuxième, un troisième, un quatrième, Et qu'est-ce qui se passe? Il devient l'esclave de ses propres péchés. Il n'arrive plus à s'en séparer. Vous avez tous constaté, vu, entendu, combien de nos frères qui nous disent « Je sais que c'est haram, Wallah, je n'arrive pas à m'en débarrasser. » Il y a une forme de servitude qui s'est ancrée dans le cœur. Le seul moyen de la soigner, c'est la ilaha illallah. C'est le tawhid, c'est la servitude. C'est pour ça que là, tu vois le prêcheur de la sunna, la différence entre le prêcheur à la sunna et le prêcheur qui ne connaît pas la sunna. Et il vient et commence avec les grands péchés. Arrête de faire ça, c'est haram. Ne fais pas telle chose, c'est haram. Fais telle chose, c'est obligatoire. Il a raison dans ce qu'il dit, mais ce n'est pas la bonne étape. C'est pas le moment. Parce que lui, dans son cœur, il a une servitude pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu viens lui dire, c'est haram? Alors que son cœur, déjà, il est attaché à autre qu'Allah. Attache-le d'abord à Allah. Quand il sera attaché à Allah, lui-même, il va chercher tout ce qui est haram pour le délaisser, tout ce qui est obligatoire pour le faire. Et ça, on le voit dans le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wasallam, quand il est envoyé chez Quraysh, il est envoyé chez un peuple, qu'est-ce qu'ils font comme péché? Dites-moi quelques péchés qu'ils font. Nul doute, ça c'est la base. Mais quoi d'autre? Par exemple, ils consomment l'alcool. On peut dire la fornication. Quoi d'autre? Le jeu de hasard, l'usure. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ahsant. Ils enterrent les filles vivantes. La femme de Quraysh, quand elle accouche, l'homme, il est là, il regarde. Il est stressé. Une fille ou garçon qui va sortir? Si c'est une fille, il creuse la terre, il l'enterre sur place. Allahu Akbar. C'est terrible de faire ça. Ils s'entretuaient. Le fort pillait les biens du faible. Dans ce milieu-là, arrive un homme. Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Il constate, il voit tout ce qu'ils font. Et par quoi il commence? Est-ce qu'à votre avis, il arrive, il leur dit, arrêtez d'enterrer les filles, arrêtez l'alcool, arrêtez de vous entretuer, arrêtez ceci, arrêtez cela. Commence pas par ça. Allah Azza wa Jalla lui révèle les premiers versets par lesquels il est devenu messager. Il lui dit, Ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, toi qui t'es enveloppé après avoir reçu la première révélation. Il est parti s'envelopper parce qu'il était apeuré. Qum, lève-toi. Qum fa anzir. Lève-toi et avertis les gens. Si tu reviens au tafsir du verset, avertis les gens que s'ils continuent dans ce shirk et persistent dans l'adoration d'autres qu'Allah, dans la servitude pour un autre qu'Allah, alors ils encourent la colère d'Allah et un châtiment gravissime. Wa rabbaka fakabbir et proclame la grandeur de ton Seigneur. Dis aux gens qu'Allah est le plus grand et que par sa grandeur, c'est lui qui mérite l'adoration, la servitude. Wa thiyabaka fatahhir et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie tes actions contre le shirk. Parce que les bonnes actions sont semblables à un vêtement. C'est pour ça que le prophète Adam alayhi salam, quand il a désobéi à Allah dans le paradis, qu'il a mangé de l'arbre, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est retrouvé nu. Il a commis un péché, le péché t'enlève, le péché te dévêtit. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » Et le vêtement de la piété, c'est ça qu'il y a de mieux. Donc ton tawhid, ta ibadah, ta servitude, c'est pour toi un vêtement. Donc quand Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi wa sallam « وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ » Et tes vêtements purifie-les, il veut dire par là tes bonnes actions purifie-les. Et de quoi est-ce que l'on purifie les bonnes actions? Du shirk. وَالرُّجِزَ فَهْجُرْ Et les idoles, délaisse-les. Qu'est-ce que tu comprends? Il arrive, les gens sont en train d'enterrer leurs filles. Ils sont en train de se tuer, de se voler, de faire tout ce que tu peux t'imaginer dans le haram. Et il arrive au milieu d'eux et la première chose qu'il leur dit, يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ Ou vous les gens, dites la ilaha illallah. Et il va vivre à la Mecque pendant 13 ans. Et pendant ces 13 années, les 10 premières années, il ne va leur parler que d'Allah, de ses noms, de ses attributs, de l'adoration d'Allah, du shirk, et ainsi de suite. Et c'est à partir de la 10e année que la salat va être légiférée. Ensuite, il va émigrer. Et là, progressivement, les adorations vont être prescrites par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a réussi dans son prêche. Parce qu'il les a attachés à Allah. Il leur a montré la servitude. Quand ils sont devenus des serviteurs d'Allah, et que le verset de l'interdiction de boire de l'alcool a été révélé avant que la consommation de l'alcool ne soit interdite. Les sahaba avaient des tonneaux de vin. Quand le verset a été révélé, le compagnon décrit les rues de la ville de Médine comme des ruisseaux de vin, sur place. Ils ont vidé les tonneaux de vin. Quand le verset du hijab est descendu et que les femmes étaient en train de faire l'agriculture, elles ont vidé leurs paniers de ce qu'elles avaient récolté pour se cacher et elles ont foncé dans leur maison pour s'habiller. Pourquoi ? Quand l'homme arrive et le prophète alayhi salam lui tend la main, puis il voit une bague en or dans sa main ou un bijou en or dans sa main, il lui enlève et il le jette au sol. Le compagnon ne le ramasse même pas. Et on lui dit, mais ramasse-le, utilise-le dans un autre objectif. Tu le fais fondre, tu le vends. Il dit, je ne ramasse pas quelque chose que le prophète a jeté. C'est quoi le secret de tout ça chez les sahaba? C'est notre sujet, c'est la servitude. Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, a dit, ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés et se sont trouvés éprouvés par la servitude de leur âme et du diable. La tarda martaruhum li nufusihim. Ensuite, il dit, ne sois pas satisfait de ce qu'ils ont choisi pour leurs âmes, ces gens-là. Ceux qui ont décidé d'être les esclaves de la dunya, les esclaves des passions, les esclaves des désirs, les esclaves de tout cela. Ne sois pas satisfait de leur choix, hein. Ne choisis pas ça. Ne fais pas comme eux. Faqadir tardaw bidhulli wal hirmani. Pourquoi? Car ils ont accepté pour eux l'humiliation et la privation. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, quand il a expliqué ces vers de poésie, il a dit, ce vers, s'il était écrit avec de l'or fondu, cela serait encore peu de valeur. Si on prenait de l'or, on le faisait fondre, on le transformait en encre pour écrire cette parole-là, ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés et se sont trouvés être les serviteurs de leur âme et du diable. Ne fais pas le choix comme eux, sinon ils ont choisi l'humiliation et la privation. Écrire ça avec de l'or, ça n'aurait que peu de valeur, a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Pourquoi ? Parce que ça résume la base même de ce pourquoi on vit. On ne doit jamais être distrait de ça. On ne doit jamais perdre ça. On ne doit jamais vivre sans ça. Allah t'a donné, alhamdoulillah, il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas là. Ne sois jamais distrait d'être l'esclave d'Allah, azza wa jal. Le serviteur d'Allah, volontaire, ne sois jamais distrait. Allah, azza wa jal, a dit, « Fi buyutin adhina Allah, an turfa'a, wa yidhkara fi hasmuh. » Dans des maisons dont Allah a permis l'élévation, il s'agit des mosquées, et que son nom y soit mentionné. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Au matin comme au soir, certains proclament sa grandeur, sa louange. Qui sont ces gens-là? Rijal, des hommes. C'est ça le vrai homme. L'homme, c'est pas celui qui a un sexe masculin et qui n'est pas capable d'adorer Allah comme il se doit. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Ça, c'est une tazkiya min Allah azza wa jalla. C'est un éloge qui vient d'Allah directement pour des gens qu'il a décrits comme étant des hommes qui ne sont distraits ni par le commerce, ni par la vente. Du rappel d'Allah, wa iqami as-salah, de l'accomplissement de la prière, wa ita az-zakah, et de l'acquittement de l'aumône. Subhanallah, tu trouves des gens, mashallah, Allah leur a déversé de ses faveurs, tu lui parles de zakat, il ne sait même pas ce que c'est. Il a des biens destinés à la vente, c'est un commerçant qui vend des biens qui ont dépassé un an en sa possession, il ne sait pas qu'il faut qu'il donne 2,5%, un quarantième de la valeur de ce bien. Ou alors il sait mais ne le fait pas. Ils ont été distraits par un bien qu'Allah leur a donné. Subhanahu wa ta'ala. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wa al-absar. Ces gens-là redoutent. Leur cœur est rempli de peur d'un jour où les cœurs et les regards seront complètement bouleversés. Et ce jour-là, c'est fini. Et ce jour-là, ces biens-là que tu as amassés ne te permettront pas d'acheter une place chez Allah. Et Allah nous informe de celui qui regrette de ce qu'il dira. Ma arna anni maliya, halaka anni sultaniya. Il va crier devant tout le monde. Yawm al-qiyama, dans la place du jugement, devant tout le monde. Ma arna anni maliya. Mon argent ne m'a été d'aucune utilité. Halaka anni sultaniya. Mon autorité, le pouvoir que j'avais, m'a fait périr. Et là, Allah Azza wa Jal va dire aux anges, خذوه فغلوه, prenez-le et attachez-le. ثم الجحيم صلوه, et faites-le brûler dans le feu de la géhenne. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه, puis attachez-le avec une chaîne dont le maillon 70 ذراعا est de la taille de 70 dhara. Non. Le verset. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. 70 ذراعا, vous savez c'est quoi en mètres? 35 mètres. 35 mètres, un maillon de la chaîne avec laquelle on va l'attacher. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que quand il vivait ici, il prenait les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, mais il était l'esclave de ces bienfaits-là. Il n'était pas reconnaissant envers Allah. Il n'adorait pas Allah. Il n'était pas au rendez-vous de l'appel à Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit, Ya ayyuhan nas, istajibu. Ya ayyuhal ladhina amanu, istajibu lillah, wa lil rasul. Ô vous qui avez eu la foi, répondez à l'appel d'Allah et de son messager, idha da'akum lima yuhyikum. Quand il vous invite à ce qui vous fait vivre. C'est quoi qui te fait vivre? Si ce n'est d'être l'esclave d'Allah Azza wa Jal. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'individu et son cœur. Si tu n'es pas l'esclave d'Allah Azza wa Jal, il y aura une barrière entre ton cœur et Allah. Comme Allah Azza wa Jal a dit, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mais non! Les péchés qu'ils commettaient ont souillé leur cœur. Et quand ton cœur est souillé, tu vas continuer à vivre, à manger, à boire, à jouir, en étant distrait de ton devoir d'être l'esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et par Allah, je vais vous faire une confidence. Quelle épreuve de tenir ces paroles? Quelle épreuve de dire ça? Et je sais que je suis le premier concerné. Loin de ça, qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous pardonne. Je pense que je vais m'arrêter ici, inshallah ta'ala, et laisser la parole à mon frère Ibrahim, Abu Talha. Je peux ajouter 2 minutes. Permission m'a été donnée. Ibn Taymiyyah, rahimallah ta'ala, a dit, فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَبْدَ الدِّرْهَمُ وَعَبْدَ الدِّينَارُ وَعَبْدَ الْقَطِيفَةُ وَعَبْدَ الْخَمِيصَةُ وَذَكَرَ مَا فِيهِ دُعَاءٌ وَخَبَرٌ وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش والنقش إخراج الشوكة من الرجل. Pour gagner du temps, je vais aller en français directement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a donc décrit cette personne-là comme étant l'esclave, le serviteur de l'or, de l'argent, de la soie sur laquelle on s'assoit et de la soie portée. Et il a dit qu'il a demandé à Allah que si un problème atteint ce genre de personne, qu'Allah fasse en sorte qu'elle ne s'en sorte jamais. Et donc, on les a décrits comme les hypocrites, ces gens-là, au sujet desquels Allah Azza wa Jalla a dit « وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ » Et parmi eux, donc Allah Azza wa Jalla dit au prophète, alayhi wasallam, et parmi ces gens-là, il y a ceux qui te dénigrent dans les sadaqat. C'est-à-dire que le prophète, alayhi wasallam, faisait un partage de sadaqat. Et puis, il y en a qui prenaient des grandes parts et d'autres, en fonction de certains points, ils prenaient une part moindre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ceux qui prenaient la part moindre? Ce sont les hypocrites. Ils dénigraient le prophète, alayhi wasalam. فَإِنْ أُعْطَوْ مِنْهَا رَضُوا. Si on leur donnait, ils se montraient satisfaits. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Et si on ne leur donnait pas, il se montrait colérique. C'est-à-dire qu'ils avaient basé leur satisfaction ou leur insatisfaction non pas sur la décision sage d'Allah et la soumission à celle-ci, mais plutôt sur leur passion. Si tu nourris mes passions, je suis content. Si tu ne les nourris pas, je suis mécontent. Ibn Taymiyyah a dit « Faridahum li ghayrillah wa sakhatuhum li ghayrillah ». Leur satisfaction est basée sur autre qu'Allah. Leur mécontentement est basé sur autre qu'Allah. Et il en est ainsi, nous dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pour ceux qui s'attachent fortement au pouvoir, ri'asa, ils veulent diriger, contrôler le pouvoir, as-sura, l'image, il s'agit de ceux qui s'attachent à la personne du sexe opposé. Lorsque tu es pris d'amour pour la femme ou lorsque la femme est prise d'amour pour l'homme, au point tel qu'il ou elle sont distraits des ordres d'Allah Azza wa Jal. Et autres parmi les passions des âmes. Si ces personnes-là reçoivent de leurs passions, ils sont contents. S'ils ne les reçoivent pas, alors ils sont mécontents. Et ça, c'est la réalité de la servitude. Agir ainsi revient à être le serviteur de ses passions ou de ses gens ou de ses choses qui sont aimées. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la servitude ? C'est riqqul qalb. C'est la servitude du cœur. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit فَمَسْتَرَقَّ الْقَلْبَ وَاسْتَعْبَدَهُ فَهُوَ عَبْدُهُ. Ce qui s'est emparé du cœur au point d'en faire un serviteur, ce cœur en deviendra l'esclave. Et c'est pour ça que le poète a dit, et ça c'est une parole magnifique, الْعَبْدُ حُرٌ مَا قَنِعْ وَالْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعْ. L'esclave, c'est-à-dire l'esclave, le servant de ce bas monde, l'esclave qui doit obéir, suivre, etc., est libre, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas esclave s'il se contente de ce qu'Allah lui a donné. Et inversement, وَالْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعْ. Et l'individu libre devient esclave dès lors qu'il convoite, dès lors que le cœur convoite, s'attache à des passions, à quelqu'un, à quelque chose, à de l'argent, à de la dunya, un attachement qui sort du cadre légal. Eh bien, à ce moment-là, quand bien même il apparaît comme étant libre, wallahi al-azim qu'il est emprisonné. Wallah qu'il est en prison. Il vit en prison. Et c'est ça la définition dans l'islam de la liberté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans l'Occident et je ne sais où? La liberté consiste à faire ce que tu veux, à dire ce que tu veux. C'est ça la liberté. Les gens qui vivent comme ça vivent en prison. Ils vivent en prison, ils sont enchaînés. Ils sont obligés de suivre ce que les gens leur dictent, d'adopter le mode de vie qu'on leur a décrit, faussement. Et ça, avec plusieurs outils. Prenons en garde les réseaux sociaux maintenant. Netflix, cette grande pourriture de Netflix. Vous croyez que ça sert à quoi, ces choses-là? Ces films et ces séries. On vous vend des modèles. On vous montre des images de gens qui apparaissent heureux. Des gens qui vous montrent qu'ils vivent dans l'opulence, ils sont à l'aise. Ils donnent envie aux autres. Ils sont toujours dans le sourire. Ce sont les premiers à se suicider, les premiers à se droguer, les premiers à divorcer, les premiers à souffrir dans leur vie. Ce n'est pas ça la liberté. Dans l'islam, la conception de la liberté, c'est que tu libères ton cœur de tout autre qu'Allah et que tu ne l'attaches qu'à Allah. Si tu attaches ton cœur à Allah, tu es libre. Tu es un abd libre. Et si tu attaches ton cœur à un autre qu'Allah, tu es enfermé tant que tu attacheras ce cœur à autre qu'Allah. Abu al-Atahiya, un poète très connu, a dit « Ata'atu matamiri fasta'abadatni. Walau anni qani'atu lakuntu hurra. » Il dit « J'ai obéi à mes convoitises, elles m'ont rendu de mon esclave. » J'ai obéi à mes convoitises, à mes penchants, j'ai suivi mes penchants, mes passions, j'en suis devenu l'esclave. Alors que si je me contentais de ce qu'Allah m'a donné, j'aurais été libre. Libère-toi par le tawhid, libère-toi par la foi en Allah Azza wa Jal. Ibn Taymiyyah a dit, je vais vraiment m'arrêter là parce que ça va être trop. Non, c'est pas trop, ça on peut parler pendant des heures, mais... faut laisser la place à Ibrahim, hafidhahullah. Wa yuqal at-tama'u ghillun fil 'unuq qaydun fil rijl. Fa idha zala al-ghillu aw al-'afwan ghullun. فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il fut dit, la convoitise ressemble à un carcan. Vous voyez les esclaves d'autrefois, les carcans là, l'espèce de plaque en fer de forme ronde servant à attacher le cou. Le carcan. La convoitise est à l'image d'un carcan sur le cou. Et du pied que l'on a, comment on dit, qaidun fil rijl, et d'un cadenas ou d'une chaîne, barakallah, fait d'une chaîne sur le pied. Et si on enlève le carcan, si on se délie des joues ou des chaînes ou des carcans à la servitude, alors le pied se délivre. Tu vivras donc libre et heureux. Je m'arrête ici, même si on pourrait en dire encore beaucoup plus, mais vous allez voir que Ibrahim va vous parler justement de tamar. Et que le tamar, la convoitise, elle doit s'exprimer pour Allah, vis-à-vis d'Allah, et elle doit être par Allah, elle doit tenir par Allah, subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi ajma'in, wa barakallahu fikum.